Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Marianne.
Mick Michel, grand artiste de musical à la fois comme interprète, auteur et compositeur, nous a quitté le 16 mai dernier. C'est pourquoi j'ai voulu commencer ces rediffusions d'été en retrouvant l'entretien que j'avais eu avec elle en 2009. Mick Michel dans Étonnez-moi Benoît le 2 juin 2009.
Cano, cano, canoë, son amour vient la chercher. Il apparaît son bâton avec des pleurs en arçon. Cano, cano, canoë, sous le ventre du bateau, on rit dans les yeux de l'eau. Là-bas au milieu des bambous, on voit une fille debout, vêtue d'un panier d'un collier, le garçon rame agenouillé. Cano, cano, canoë, son amour vient la chercher. Le soleil brille là-haut, auréolant le bateau. Jamais je ne l'ai vu, ce paysage. C'était dans un certain livre d'images qui a ravi mon enfance, et bien souvent j'y repense pour rêver. Son amour vient la chercher avec un collier de fleurs. Il lui apporte son cœur. Cano, cano, canoë, les roseaux vont se coucher sous le poids de leur bonheur, et moi j'ai chaud dans mon cœur. Cano,
Michel, bonjour.
Bonjour.
C'est gentil de nous accueillir dans votre belle maison.
Ça me fait plaisir.
Des bords de la Saône, qui est la maison de votre famille depuis...
Voilà, mes grands-parents ont acheté mon grand-père, qui s'appelait le commandant Jean-Baptiste Tournassou, ouais. Le premier grand photographe de France d'ailleurs. Ils ont acheté cette maison, j'avais 2 ans, parce qu'ils avaient une toute petite maison à côté du pont. Ouais. Ils se sont dit, ben, la petite vient de naître. Et ils ont acheté cette grande maison qui est immense, je vous ferai voir tout à l'heure, c'est énorme. Ouais. Plusieurs étages, enfin bref. Mais c'est mon bonheur. Et ben voilà. Je leur suis toujours reconnaissante, même de loin.
Vous êtes revenue vivre ici depuis que vous avez quitté Paris, à peu près.
Ah ben oui, bien sûr. Ah, c'est ça. Mais quand j'étais à Lyon, j'étais tout le temps Lyon, mon mère, Lyon, ma mère, même en vélo, 45 kilomètres.
Ah oui, en vélo jusqu'à Lyon,
oui.
Ah oui. Vous étiez déjà sportive.
Ben, je crois que ça m'a donné une santé, ça. Hein.
Voilà.
Et pendant la guerre, mes grands-parents, jamais ils auraient acheté des pommes de terre au noir. Alors, mes parents les achetaient à Lyon, et moi j'emportais ça sur mon dos, dans un sac de montagne, en vélo, 45 kilomètres, pour aller porter les patates.
Ah oui, c'est pas mal.
Alors, en tout cas... C'est drôle, parce qu'on pourrait même penser que je charge. Ben non, je rapportais les patates.
Il y a une chose qui m'a frappé, Michel, quand je regarde un peu l'ensemble de ce que vous avez fait dans votre vie, c'est qu'évidemment c'est très divers, puisque vous avez été chanteuse, vous avez été peintre, vous avez été sculpteur, meneuse de revue. Mais au fond, il y a quand même un point commun dans tout ça, c'est qu'on dirait que vous avez toujours eu envie de créer quelque chose artistiquement, même en passant par des arts différents.
Oui, c'est vrai, bah, c'est Ça ne s'invente pas, on est comme ça ou pas.
Oui, c'est une nature.
Mais ça vient aussi de la famille.
Ah oui.
Parce que vous comprenez, je suis née dans une famille d'artistes.
Oui.
Maman avait une voix formidable. Elle dessinait, elle écrivait, elle jouait du piano.
Déjà, elle faisait tout.
Bon, mon père était un photographe formidable. Il chantait, il avait une voix de ténor extraordinaire. Sportif, il m'a emmené partout. De faire du ski, c'est formidable. Mon grand-père, premier photographe de France, directeur du service photographique de Clémenceau. Vous comprenez ? Et puis ma grand-mère qui était une artiste de tout, pour l'écriture, pour la couture. Je suis tombée dans une famille exceptionnelle, vraiment.
Donc pour vous, au fond, la question ne s'est pas posée. Vous aviez envie à votre tour d'être chanteuse, d'écrire des chansons, d'écrire des textes, de faire de la peinture.
Voilà, ils ne m'ont jamais coincée. Ils ont toujours été d'accord avec moi. C'est énorme.
Oui, c'est évidemment une chance énorme.
Oh, une chance énorme. Alors, il faut au moins reconnaître.
Aujourd'hui, maintenant que vous êtes retiré dans cette belle maison de Lain, juste en bordure donc,
de la Saône,
il vous arrive de réécouter les disques que vous avez enregistrés dans les années 50 ?
Écoutez, ça m'arrive surtout quand je suis en voiture, je ne conduis plus à cause de mes yeux, mais en voiture, surtout quand je vais à Lyon, la dame qui m'emmène met des CD.
Oui.
C'est comme ça que j'ai retrouvé des chansons que j'avais oubliées d'ailleurs.
Ah voilà.
C'est marrant, hein. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas la voiture pour écouter, non, c'est vrai, j'écouterais pas.
Vous vivez pas dans le culte de la nostalgie. Il n'y a pas des photos accrochées partout de vos prestations dans les grands théâtres et musicals.
Non, mais enfin, j'ai tellement de bons souvenirs. C'est dans ma tête, c'est dans mon cœur.
Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver de toi. Quand tu es loin, le temps me dure, je repense à nos discussions, tes intentions me semblent pures, je finis par te donner raison. J'idéalise notre amour, ne te trouvant que des vertus, mais lorsque tu es de retour, je comprends que parfois l'on tue. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver de toi. Pardon mon amour de te dire tout ça, mais viendra le jour où tu le verras. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver pour toi. Y a pas moyen quand nous sortons de rentrer à une heure normale. Toi tu es frais comme un gardon, moi je m'éteins et deviens pâle. Mais le matin y a plus personne, je me fais un mauvais sang fou. Papa t'en rond, toi tu ronronnes, oubliant tous tes rendez-vous. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver pour toi. Je t'aime encore plus quand t'es contre moi. J'ai chaud, je suis bien dans tes bras. Je ferme les yeux, tu ne parles pas, et je peux rêver de toi.
Mick Michel, vous avez décidé alors, donc quand vous étiez encore très jeune, de partir faire des études aux Beaux-Arts de Lyon.
C'est ça, c'est mon grand-père qui m'a fait entrer aux Beaux-Arts de Lyon, qui m'a inscrite.
Donc à ce moment-là, en fait, même si vous aviez avec votre famille un goût pour tous les arts, votre but c'était de devenir peintre.
Ah bah oui, ça vraiment c'était mon avenir, mon bonheur. Je dessinais depuis toute petite, je dessinais. Et pendant toute la guerre, j'étais aux Beaux-Arts.
Donc vous étiez installé à Lyon à ce moment-là.
J'ai habité Lyon depuis toujours, je suis né
oui,
à Lyon.
Vous avez toujours fait la navette, vous nous avez dit tout à l'heure.
Oui, d'accord, mais enfin, à ce moment-là, comme, puis comme toujours, j'ai toujours vécu à Lyon.
Et donc, les Beaux-Arts, bon, évidemment, ça devait être très prenant. Vous vouliez devenir peintre, mais alors, vous aviez déjà un peu un goût pour la chanson dans votre jardin secret?
Ah oui, je fais toujours des chansons.
En
même temps, c'était mon grand-père était commandant. Hein.
Oui.
Ben, j'avais fait une chanson toute... J'étais petite, hein. Mon grand-père est un commandant qui n'a rien perdu en retraite. Sans rabâcher, il se répète et nous l'entendons bien souvent. Bon Dieu, que ça saute là-dedans. Marchez, marchez, tambour battant, vran, vran. Dans le jardin, il y a un coignassier, venez le voir. Après, je vous photographierai sur un fond noir. Moi, je fais ça sans projecteur, avec mon cœur. Au bout d'une heure, c'était fini, on avait le torticolis. Mon grand-père, voilà, vous voyez, je me suis toujours...
Ah oui, magnifique. Voilà. Et j'ai vu aussi, vous écriviez des cantiques, mais des cantiques un peu sur des rythmes un peu modernes, comme ça.
Dieu d'amour, bénissez tout ce que j'aime.
Ah oui, voilà.
Voilà. Oh non, j'ai toujours écrit des chansons, même petites.
C'est vrai. Ça, c'est drôle, alors.
Et puis, si ça vous amuse que je vous raconte ça, j'avais un amoureux. Que j'ai vraiment, il a marqué. Uh-huh. Et alors, il chantait très bien. Et j'avais fait une chanson pour lui. Je m'appelle Jean, mes cheveux sont frisés. La plupart du temps, un peu ébouriffés. Je ne suis ni beau, ni très intelligent. L'école ne m'a pas gardé pendant longtemps. Il n'a jamais voulu me la chanter. Eh ben, tant pis.
Vous connaissiez la musique, le solfège?
Ben, j'ai pris des cours de piano.
Oui, quand même. Vous aviez,
Madame Atkinson, à Lyon.
Vous étiez déjà à la fois parolier et compositeur. Hein.
Voilà, mais j'ai jamais écrit à la musique, vraiment.
C'est ça.
Les accords, tout ça, j'étais minable pour les écrire. J'avais toujours... Il fallait quelqu'un qui prenne la peine d'écrire pour moi. J'ai toujours composé, mais mal écrit. Voilà.
Donc voilà, alors Mick Michel, vous appeliez d'ailleurs déjà Mick Michel à ce moment-là?
Michel, ou... E-Y.
Oui, c'est ça.
Et puis alors, avant de partir sur Paris, là, tout de suite en 1950... J'avais mon atelier de peinture, rue René Lénaud à Lyon, et un jour on sonne, et c'est un monsieur qui avait un melon sur la tête. Il venait de la part de Walt Disney, m'apportait une facture énorme, parce que, soi-disant, je me faisais appeler Mickey.
Ah oui, Mickey, oui.
Mais c'est la presse qui disait...
Paulette Mickey.
Voilà, il mettait un K au lieu du H. Mais dites, c'est la seule fois au monde, ça je vous le jure, où j'étais violente. Je l'ai poussé dans les escaliers, il est tombé, il est reparti. Je l'ai plus revu.
Donc vous appeliez en tout cas toujours Paulette Michet.
Ben oui, je m'appelle
vous surnommait Mick.
Mick, voilà, Mick toujours. Voilà. Parce que Mick, c'est les ablettes qu'on a à Montmerle. Et comme j'étais petite, et les ablettes étaient les plus petits poissons, on m'a toujours appelé Mick. Mais c'était Mick Michet. Et à partir du moment où ce mec est venu avec Walt Disney, j'ai mis le L
en plus
de ma grand-mère qui s'appelait Michel, de la
D'accord.
famille Michel. Voilà.
Alors, vous auriez pu continuer finalement votre vie, disons, d'artiste peintre à Lyon, mais vous avez tout d'un coup décidé de monter à Paris. En fait, c'était autant pour vous faire reconnaître comme peintre que comme chanteuse à ce moment-là.
Ah, mais c'était pour peindre.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, je prenais le train à 9h le soir. J'arrivais à 7h du matin à Paris, dis donc,
ouais.
Avec mes tableaux sous le bras.
C'est ça.
Et alors j'arrivais dans les journaux, bonjour monsieur, je suis peintre, je fais des dessins, je suis lyonnaise, il me regardait, il me dit, ben ça se voit, hein. C'est vrai, j'avais un petit col blanc, des petites chaussettes blanches, c'est vrai, les Parisiens à ce moment-là étaient vraiment racistes, ils ne pouvaient pas voir les Lyonnais.
Il y a toujours eu des problèmes entre
Paris
et Lyon.
Oh non, mais à ce moment-là, c'était au plus maintenant. Mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas voir les Lyonnais.
Ouais.
Eh bien, ben, la Lyonnaise, vous repasserez. 10 fois, je suis montée à Paris comme ça. Pour rien. Alors, je les ai trouvés cons et racistes. Ah, les Parisiens, je dis, vous ne voulez pas regarder ce que je fais, vous m'entendrez. Et c'est là où je me suis lancée dans la chanson parce qu'ils ne voulaient pas regarder mes tableaux.
Ça, c'était quand même extraordinaire. Et alors donc, vous aviez déjà des chansons de prête ou vous en avez écrit des nouvelles à ce moment-là?
Ben, j'ai toujours écrit un petit peu.
Oui,
hein.
Vous en aviez en réserve.
Et puis alors, j'ai su qu'il y avait un concours de la chanson française. J'en ai envoyé une, le marchand de poésie, qu'est-ce que je risquais, hein. Et ben, j'ai reçu une lettre en disant, vous êtes retenu parmi les 140. Ah bon? Donc, je suis allée...
C'était à l'ABC, hein?
Oui, c'est ça. Et voilà. Je suis montée à Paris et j'ai passé 4 éliminatoires. Et puis j'ai gagné le Grand Prix.
Alors là, c'est vous qui chantiez votre chanson.
Oui, 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 bien ça, sûr.
Hein. Devant un jury assez prestigieux. Hein. Il y avait Marie Dubas, il y avait...
Bon, oui, je ne me rappelle plus qui y avait, mais enfin, c'était très impressionnant. Hein.
Ah oui. Donc vous avez été lancé du jour au lendemain avec ce prix ?
Oh, pas lancé, non, non, parce que là, je suis revenu à Lyon après. Mais quand même, après avoir gagné ce prix de la chanson française, j'ai fait connaissance d'une édition. D'abord. Ouais, et ouais, cette ouais. édition m'a dit, ben, il faudrait que on va téléphoner à quelqu'un que nous connaissons, qui s'appelle Roland Ribé, et qui arrive de Nîmes. Là, il veut être impresario, il commence bien. Et j'ai connu Roland Ribé, qui est devenu mon manager, et ma famille.
Il était marchand de poésie, il a passé tous les jours de sa vie à écrire des mots d'amour pour tous les gens des faubourgs. Mais il n'avait au fond de son cœur ni grand amour ni petit bonheur. Les gens venaient pour quelques sous lui acheter des mots très doux. Quand il aima, c'était son heure. Il ne trouva rien dans son cœur. Il était marchand de poésie. Il a passé tous les jours de sa vie à écrire des mots d'amour pour tous les gens des faubourgs. Il ne savait pas que les mots vendus, quand on les veut, on ne les trouve plus. Qu'un mot d'amour, robe de mariée, finissent toujours par se faner. Celle qu'il aimait est repartie. Celle qu'il aimait n'a pas compris qu'il était marchand de poésie. Qu'il a passé tous les jours de sa vie à écrire des mots d'amour pour les amants des faubourgs. La déception, c'est comme la mer, ça ronge la vie à sa manière. Depuis ce jour, ne dit plus rien, il vit l'amour dans ses quatrains. Quand il écrit, tombe parfois une petite larme sur ses gros doigts. Ce n'est qu'un marchand de poésie.
Donc, Mick Michel avec Roland Ribé, avec le prix du concours de l'ABC pour le marchand de poésie, tout d'un coup, votre vie a changé et
bien
vous
sûr.
Êtes entré dans le monde de la chanson.
Voilà.
Et là, alors vous avez fait. C'est ça qui est intéressant parce que, au fond, vous êtes tout de suite lancé à la fois comme auteur, compositeur et interprète.
Voilà, j'étais la seule fille à faire paroles, musique
et à chanter vous-même.
Voilà,
oui,
j'étais la
ça.
Seule.
Et là, alors, vous avez écumé un peu, d'abord, peut-être les petits lieux, les cabarets,
Saint-Germain-des-Prés.
Oh,
bah, j'ai tout fait, pensez bien. Et surtout, alors...
L'échelle de Jacob.
Bien sûr. Et alors, c'est pour ça que je tiens à parler de Roland, qui est devenu ma famille. Mm-hmm. Ils arrivaient de Nîmes. Madame Ribé, sa femme, chantait pour le nourrir. Et elle avait du talent, un sacré talent d'avance, parce qu'elle arrivait à quatre pattes ou repartait pendue par le rideau. Vous voyez, à ce moment-là, en 1950, elle ressemblait à personne. Mais enfin, ce n'était pas son job, elle. C'était vraiment... Elle est devenue mon manager en même temps que son mari.
D'accord.
Et puis ça a collé avec eux, vraiment. Et c'est devenu ma famille.
Alors, il s'est passé quand même là une chose extraordinaire sur laquelle il faut qu'on s'arrête un peu, parce que ça fait partie de l'histoire de la chanson française, c'est que l'année suivante, en 1951, vous avez écrit une chanson que vous avez chantée vous-même, mais avec un succès mitigé, mais qui a été lancée par Yves Montand et qui est devenue un succès immense, c'est Le Gamin de Paris.
Voilà.
Alors, vous vous rappelez un peu comment ça s'est passé, en fait, l'histoire de cette chanson?
Oui, c'était ma première tournée d'André Dassary.
Oui.
Que Ribé, bien sûr. Toujours lui qui m'avait déjà.
Oui.
Et alors, vous savez, il y avait... à ce moment-là, c'était des planches dehors, hein, pour la soirée. Uh-huh. On répétait et on bouffait. On faisait notre bouffe avant le spectacle en plein air. Et Adrien Marès, qui était l'accordéoniste de la soirée, avait, avec un accordéon piano, joue un air, mais oh, je dis, écoute, non, arrête, il est triste ton truc, oh là, passe-moi ton accordéon. Et comme je jouais de l'accordéon bouton, et
ah
piano,
oui.
Les deux,
ouais,
enfin, ouais. J'ai pris l'accordéon et j'ai joué, et en même temps, j'ai fait Un gamin de Paris, c'est tout un poème, la 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 la. Vous vous rendez compte, c'est lui qui m'a déclenché,
ah oui.
Avec un autre air, d'accord, mais s'il n'avait pas fait ça, j'aurais pas pris un accordéon pour jouer Un gamin de Paris, la 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 la.
C'était amusant que... d'ailleurs pour une jeune lyonnaise d'écrire une chanson sur les poulbeaux.
Ben oui, mais là vraiment c'est lui qui m'a déclenché.
Ah oui.
Et c'est pour ça que j'ai fait signer la musique avec lui.
D'accord.
Même s'il ne l'a pas écrit, il l'a mérité.
Et alors cette chanson, comment est-ce que vous avez été amené à la donner, si on peut dire, à Yves Montand?
Eh ben, j'avais ma chanson... Et je fais une radio, je ne me rappelle plus quelle radio, je m'en tirais, vous savez, il y a tellement longtemps, vous vous rendez compte.
51.
En 51, on est dans... Je ne veux pas mentir. Donc il y avait Yves Montand, bien sûr, vous vous rendez compte, Yves Montand. Oh, je me suis dit, j'ai écrit une chanson, je peux vous la donner, ben, donne mon petit. Il est parti avec. Et bien quelques jours après, il l'a chanté à la radio, avec les papiers à la main, je l'ai su, parce qu'il ne savait pas encore les paroles vraiment. Ça lui a plu tout de suite. Voilà.
Et là, c'est devenu un immense succès.
Oh, bah, c'est lui qui l'a lancé, hein, c'est pas moi. Ça a été la chance de ma vie, moi, ça.
Oui, c'est ça. Enfin, elle a été chantée par d'autres, d'ailleurs. Il y a eu Patachou, après.
Oh, mais bien sûr, ça a été merveilleux. Ouais. Mais c'est lui qui m'a déclenché. Il faut reconnaître les choses vraies dans la vie.
Il paraît même que Maurice Chevalier en était un petit peu jaloux.
Oh, ça, alors, c'est drôle, parce que Maurice était un monsieur que j'aimais profondément, que j'admirais. Et souvent, une fois par mois, à peu près, j'allais déjeuner chez lui. Et alors, j'arrive ce jour-là, il ouvre, et c'est lui qui m'ouvre la porte. Il dit, allez, rentre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a une... Dis-moi, cette chanson, c'est à moi qu'il fallait la donner, pas ce Rital.
Voilà. C'est drôle. Mais il était sinon attentif et gentil avec vous, Chevalier.
Oh,
ben, donc,
adorable, écoutez, ne me serait-ce que me dire ça.
Oui, oui.
C'est qu'il aimait ce que je faisais, c'est qu'il m'aimait moi. Sinon, il aurait pas pris la peine d'avoir cette colère. Non, c'est bien joli, vous savez. Ça fait partie des souvenirs que j'oublierai jamais.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, mais lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit au aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui chante, s'il faut, peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille.
Dans les années qui ont suivi, alors les années 50, vous êtes devenu tout d'un coup célèbre grâce au Gamin de Paris.
Oui.
En fait, vous avez aussi donc à votre tour mené vraiment la carrière d'interprète. Alors là, au plus haut sommet,
oh ben oui,
mais tout en continuant aussi à écrire pour les autres.
Ah ben oui, j'écrivais, me prenait qui voulait, et c'était mon bonheur.
Oui, c'est ça.
J'ai toujours écrit mes chansons sans arrêt, sans arrêt.
Par exemple, on peut dire que « Ni toi ni moi », je crois que ça a été interprété quelque chose comme 25 fois différentes, enregistrées.
Voilà une chanson aussi, ça a été un succès énorme pour moi.
C'est ça. Et monter sur les planches, alors c'est quelque chose que vous aimiez vraiment, qui vous faisait du bien?
Ah oui, j'aimais bien.
Vous n'aviez pas
ce
le trac?
Ce contact, ça... Le trac, on a toujours forcément un peu le trac, mais enfin, je n'étais pas anxieuse. Je faisais avec bonheur et amour, non, sans blague.
Vous vous rappelez la visite d'Édouard Herriot à l'Olympia en 1954?
Oh oui, ça c'est vrai, la phrase qu'il m'a dit.
Elle rendrait Louis aux sourds.
Voilà, exactement.
C'était le jugement d'un Lyonnais, d'ailleurs.
Ben, c'est beau quand même, écoute.
Un grand Lyonnais.
C'est beau, non?
Oui, oui, c'est une très très belle phrase. Il paraît, Mick Michel, que dans toutes ces années, donc vous êtes devenue une chanteuse célèbre, une des plus célèbres de la scène française.
Oui, du pot,
vous continuiez malgré tout à arpenter Paris en Solex ou en scooter, que c'était votre moyen de locomotion favori.
Ben oui, la plupart du temps j'étais en vélo, c'est vrai.
C'est vrai.
Après j'ai pris la voiture, bien sûr.
Voilà.
Enfin, au départ, par exemple, à l'échelle de Jacob, j'arrive un soir. Je m'arrête pas. Je repasse une deuxième fois, je m'arrête pas, ils sont dit, elle est dingue, pourquoi? C'est tout simplement que quelque chose avait glissé et m'avait bloqué. Je pouvais pas freiner.
Oui, le frein
marchait. Et la troisième fois, je suis passé, je dis, coincez-moi, je peux pas freiner. Ils ont été jeunes, mais ça a été quand même très douloureux parce que là, un vélo Solex, quand vous pouvez pas, quand on pédale, on fait ce qu'on veut. Mais quand vous avez un moteur,
ouais,
et que ce moteur est coincé.
C'était horrible.
Oh, c'est affreux. Alors. Et ben, ils sont arrivés à m'immobiliser. J'ai quand même fait mon tour de champ.
Le vent rencontre le moulin et la route, le chemin, le torrent, c'est la rivière. Et toi, ce fut moi. Je sais, je complique ta vie, tu vivais bien à l'abri des jalousies de la terre. Peut-être lassé, tu tenteras d'effacer les raisons qui nous enchaînent. Hélas. comprendra qu'en vérité, il n'est pas de volonté qui puisse imposer silence à la voix d'un cœur. Ni toi, ni moi, chérie, n'y pouvons rien.
Toi ni moi, c'était Mick Michel en 1952. Et puis, depuis le début de cet entretien, vous avez également entendu Cano Canoë en 1954 avec l'orchestre de Valberg. Et encore l'orchestre de Valberg qui accompagnait Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Ensuite, Le Marchand de Poésie, le premier enregistrement de Mick Michel en 1950. Et puis, Le Gamin de Paris, bien sûr, par Yves Montand en 1951, accompagné par Bob Castella et ses rythmes. Mais nous allons maintenant retrouver Mick Michel, que j'ai donc rencontré il n'y a pas très longtemps dans sa maison et à qui j'ai demandé, pour évoquer la suite de sa carrière bien sûr, de nous raconter cette rencontre avec Henri Varna qui lui a proposé de devenir sa grande meneuse de revue.
Oui, mais alors je vous raconte tout alors. Hein.
Ah ben oui, bon. Comment ouais.
Eh bien, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai un don, j'enlève le mal. J'enlève, si vous avez mal à la tête, je peux vous enlever le mal de tête, voyez. Ouais. Et là, à ce moment-là, je faisais tout ce que je pouvais pour faire le bien. Et puis alors un jour, Monsieur Varna me voit à un spectacle. Ouais. Il s'est mis en rapport avec Roland Ribé, mon manager, et Roland me dit, il y a Varna qui veut te voir. Tel jour, telle heure. Ah, d'accord, d'accord. C'était par téléphone, j'y vais tout de suite.
Ouais.
Et puis j'arrive vers Monsieur Varna. J'ai dit, Monsieur Varna, quel bonheur de vous rencontrer. Vous avez mal où ? Il me dit, quoi ? Bah, vous avez mal où ? Mal où quoi ? Bah, si vous me faites venir, c'est que vous avez mal quelque part.
Parce que vos dons étaient connus.
Ben oui.
Ah oui.
Il me dit, j'ai eu mal nulle part, je veux que vous soyez la vedette de ma prochaine revue. Oh, c'est pas vrai, je dis, c'est une blague ou pas ? Non, je voudrais que vous soyez voir avec vous. J'y vais. Mais... pendant combien de temps dans votre truc ? Comment mon truc ? Je voulais que c'était pas malin de ma part.
Hein. Ah non, le pendant plus grand ça. Directeur oh, bah, de spectacle
mais oui,
parisien.
Mais vous comprenez, j'avais l'habitude, la joie de faire des galas dans le monde entier, n'importe où dans la France, changer tout le temps. Je me suis dit, mais combien de temps dans le même dans son
ah, truc ? Ah, c'est ça qui changeait. Vous aviez pris l'habitude de changer
voilà.
De ville tous les jours.
Comment dans mon truc ? Bah, pardonnez-moi, monsieur, combien ? Bah, au moins un an. Un an ? Vous vous ennuierez pas. Si vous voulez un cheval, vous aurez un cheval. Vous écrirez les sketchs, vous écrirez les chansons, vous ferez les ballets. Ah bon, d'accord, ça commence à m'intéresser. Alors, bah oui, quand on vous propose de faire une revue, c'est déjà plus la question de faire une présence tous les jours. Quand on
j'ai
est.
Lu qu'il y avait à peu près 100 artistes sur scène dans le spectacle. Hein.
De pas 100. Mais enfin, il y avait à peu près...
En comptant les musiciens, peut-être, alors, je sais
oui,
pas.
Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Mais il y avait... Non, mais bon, voilà. Mais il y avait à peu près 40 boys et danseuses. Il y avait tout un orchestre, il y avait des acrobates. Il y avait... Non, c'était vraiment extraordinaire.
Vous avez joué 1500 fois
oui. Hein,
la revue qui s'appelait Avec Frénésie au Casino oui. De Paris entre 1963 et 1966. C'est
voilà,
c'était énorme. Mais en fait, vous avez eu envie, dites-moi si je me trompe, mais au fond de créer une revue à grand spectacle, un peu dans l'esprit des grandes revues d'avant-guerre, de Joséphine, de Miss Tinguette, etc.
Je me rappelle pas mon état d'esprit, mais du moment qu'il me donnait la liberté.
Vous voulez qu'il y ait des plumes, qu'il y ait des boys, qu'il y ait des...
J'ai appris à faire de l'acrobatie.
Voilà.
Je me suis lancée dans moi-même, vous comprenez. J'ai vraiment sorti de moi tout ce que j'aurais voulu faire.
C'est ça.
L'acrobatie, j'en avais jamais fait.
Mais ça vous est venu d'où ce goût par l'acrobatie ?
J'étais une amoureuse de Tarzan.
Ah voilà, c'est pour ça.
Ah oui, non mais ça, c'est un amour qui a duré toujours. Alors, oui. Et c'est vrai qu'il m'a inspiré. Même quand j'étais à l'école, on m'appelait Janine.
Ah oui.
Et puis j'ai une petite camarade qui est Jean. Vous comprenez, parce que je vivais avec ce monde de Tarzan. Bon, toujours est-il que pour ce spectacle, il m'a donné la liberté, non pas seulement de faire un tour de chant, de me mettre des... mais de faire de l'acrobatie, des choses dangereuses, de faire ce que je voulais, d'écrire les paroles, d'écrire les sketchs, d'écrire les musiques. Vous vous rendez compte d'une liberté?
Ah oui, c'était extraordinaire, oui. Vous chantiez un des morceaux, je crois, la jambe accrochée à une corde. Enfin,
non, je chantais pas à ce moment-là, mais j'ai fait des acrobaties pendues par un pied.
Pendues par un pied, voilà.
Il y avait mes boys qui faisaient un truc très dangereux. Ils me tenaient le bras et le pied, et puis comme ça, ils lançaient dans le vide en tenant le pied seulement.
Voilà.
Vous vous rendez compte, comme ça, je partais parmi les gens et ils me rattrapaient. Je ne sais pas comment, il n'y a pas eu d'accident.
C'était le goût de la performance, on sent ça.
Ah oui, ça,
vous,
vraiment, je me suis régalé.
Et alors, pour le coup, contrairement à ce qu'était votre crainte au début, c'est pas ennuyeux de jouer le même spectacle 300 fois
non,
dans l'année?
Non, parce qu'il était dangereux et merveilleux tous les jours.
Ah oui.
Non, vraiment. Quand on a peur,
oui.
Comme on n'essaie pas, rien que le tour de chant, pareil, tous les jours, ça n'avait rien de ce que je craignais, voilà.
Et Henri Varnat, alors bon, revenons un instant à ce personnage, parce que c'est quand même un personnage essentiel de l'histoire du spectacle en France. Quel souvenir plus précis vous avez de son style, de sa personnalité, de son...
Écoutez, il savait reconnaître les artistes, la preuve, regardez, Lynn Renault,
qui était avant vous d'ailleurs meneuse de
revue. Mais il connaissait les gens, il savait ce qui allait leur plaire.
Ah oui.
Il n'ignorait pas le public. Le public n'était pas des gens payants. C'était des gens qui l'aimaient. Et ça, je suis sûr qu'il aimait le public.
Ouais, ouais.
Et il travaillait, il faisait tout ça pour eux.
C'est
ça. Et ça, je ne l'oublierai jamais.
Il vous avait logé dans le casino de Paris, d'ailleurs, à un moment donné, non? Ou juste à côté ou...
Oh non, j'habitais pas loin, non.
Ah bon?
Non, mais j'avais mon atelier de peinture.
Ah voilà, c'est ça. Et vous aviez participé, alors puisque vous étiez depuis toujours peintre et passionné d'art plastique, de très près à la fabrication des décors de la revue?
J'avais fait les décors, tout ça, oui.
Vous-même? Ah oui.
Ah oui,
ah, oui, c'est ça.
Vous rendez compte, les sketchs, tout ça, j'avais un truc avec mon chien. Je faisais une fille des Halles.
Ouais.
Et alors j'avais une petite carriole avec des légumes. Uh-huh. Et je rentrais... Qui c'est qui c'est moi, je vends des radis et des petits pois. Et avant le jour de la première, Varnat m'a dit, il faut que Fine, mon chien, mon petit Yorkshire, soit sur scène, il nous portera bonheur. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur Varnat, il est tout petit, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse sur scène? Mettez-le sur la carriole. Écoutez, il nous portera bonheur, d'accord. J'espère que ça va marcher, je ne voyais pas ce que le chien voulait apporter. Bref, je rentre, c'était le jour de la première. Je mets mon chien au milieu des légumes et je rentre et je chante. Et j'invente, là, vous comprenez, c'est j'invente devant les gens. Je viens pour le prendre. Arrgh, lui qui jamais ne faisait ça. Hein. Il y a eu une conversation entre mon chien et lui, que les gens se marraient. J'essaye de le prendre, il saute par terre. Je me mets à quatre pattes derrière la petite carriole, lui, et à droite, à gauche, comme ça, j'essaye de l'avoir. Finalement, je le rattrape. Je viens vers le micro, et dans le micro, il se met à faire brrrr. Je lui dis, mais tais-toi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis sa patte sur le micro, et il a fait brrrr à côté. Les gens étaient fous de joie. Ça, vraiment.
Ça, c'est beau.
Je vous assure qu'ils avaient jamais, ils se sont dit, mais comment elle a pu lui apprendre ça? J'avais rien fait.
Et alors, la fin du Casino de Paris, ça a été dur pour vous? Parce que c'était un rythme tellement... extraordinaire, tous les jours sur scène au même endroit devant un public énorme.
Ça a été un bonheur parfait. Hein.
Oui. Vous auriez bien continué, je veux dire.
Oui, mais enfin quand même, oui. Il y a un moment, il fallait que j'avais le tour du monde qui me demandait, il fallait que ça s'arrête. Mais ça a été vraiment un tel bonheur que je remercie Varnat de tout mon cœur.
Deux, trois plumes au bas terrain, quelques paillettes et un refrain. Pour l'étranger, c'est Paris. Un escalier qu'on descend, brillant mannequin, talons claquants. voilà Paris, vu en grand plan. Rien n'est bien nouveau, le chapiteau à tous les vents. Vent, Méli-Mélo s'égare et ses tableaux vivants. De trois plumes et d'être dentelle, de jolies filles qui étincellent. Paris se cambre et fait la belle. On représente l'Afrique avec une Fatma et le grand Far West par le fameux cowboy. Les États-Unis par un gangster velu et la Russie par un moustachu. L'Allemagne par des blondes aux longs cheveux nattés et l'Italie par une guitare à gratter. On ne sortira pas du conventionnel, ça sont toujours les mêmes ficelles. Deux, trois plus beaux bas des reins, quelques paillettes et un refrain. Pour l'étranger, c'est Paris. De trois boys et des flonflons, un beau décor fait de carton. Et tous les yeux sont éblouis. Je ne trouve rien pour décrire notre capitale, car c'est quelques mots qui n'ont plus rien d'original. De trois plus beaux bas des reins, un French cancan, un vieux moulin. Voilà Paris, rêve du monde.
Mick Michel, vous nous disiez que après le Casino de Paris, effectivement, c'était aussi la vie de chanteuse qui continuait. Vous avez repris donc les tournées avec votre répertoire
un peu partout, le tour du monde.
Dans le monde entier. Oui.
Absolument.
C'était un plaisir pour vous de voyager avec vos chansons.
Oui, c'est extraordinaire. Vous avez, ouais. Vraiment, c'est des aventures formidables, ça. J'ai de la chance, vous vous rendez compte?
Ben oui, c'est une carrière magnifique. Vous nous avez parlé aussi de votre goût pour la médecine douce.
Ben oui, j'ai 16e chambre correctionnelle.
Oui, parce que voilà, ça vous a été reproché, on vous a accusé de pratique illégale de la médecine.
Vous vous rendez compte, passer devant la 16e chambre correctionnelle.
Au même moment, vous étiez au Casino de Paris.
Au Casino, ça fait riche, hein, ça. Bien sûr, ça.
Ça a pas dû être très drôle pour vous, cette affaire.
Bon, ils ont pas été méchants quand même. Hein. Bon. Non. Et puis il y avait tous les artistes qui étaient avec moi qui sont venus m'aider. Non, ça a été une belle aventure finalement.
Ça s'est bien passé, d'accord. Et puis alors, donc après ces années du Casino de Paris, après ces tournées, vous êtes aussi arrivé à la télévision où vous avez produit des spectacles.
Des spectacles, vous vous rendez compte, jusqu'en 1974.
Jusqu'en 1974.
J'avais la plus grande émission. Ce sacré métier,
c'est ça.
Entente cordiale, où j'ai sacré métier, j'ai pu lancer Dave, tout ça, des gens que.
Voilà, parce que votre intérêt, c'était de découvrir au fond des jeunes artistes.
Ben
hein.
Voilà. Mais ça a été vraiment un très grand bonheur pour moi.
Vous ne chantiez plus à ce moment-là, alors?
Ah si, je chantais dans mes émissions aussi, oui, bien sûr.
C'est ça.
Et là, j'ai fait revenir des gens qui avaient quitté la scène.
Oui, justement, Michel, j'ai envie de vous demander, à côté des jeunes artistes que vous avez lancés, c'est qui, au fond, en France ou dans d'autres pays, d'ailleurs, les grands chanteurs que vous admirez, ceux que vous avez toujours aimés dans votre vie, qui vous ont influencé?
Piaf.
C'est Piaf, d'abord?
Oui. Ouais.
Pourtant, elle n'avait pas été très gentille avec vous, elle ne vous avait pas répondu quand vous lui avez envoyé vos chansons.
Ben oui, mais qu'importe, vous voyez, quand on aime quelqu'un qu'on admire, ça passe par-dessus, vraiment.
Oui, bien sûr, oui. Les chanteuses de jazz américaines.
Et puis alors Joséphine Baker qui m'a marqué et que j'avais fait revenir en France pour mes émissions justement, pour Entente Cordiale.
Ouais.
Elle qui rêvait de revenir en France. Et elle a été engagée à Bobino et elle est morte sur les planches.
C'est ça.
Grâce à moi.
C'est beau, vous savez. Belle mort pour un artiste.
Mais elle voulait revenir en France. Et grâce à ma démarche que j'ai fait revenir pour cette émission et tout ça, elle est restée en France, elle est restée à Paris. Et ça, c'est une joie de ma vie. C'est formidable.
Et du côté des chanteurs hommes, alors vous avez des modèles, des idoles
Oh ben, bien sûr. Ben, Yves Montand, vous rendez bien compte que je n'oublierai jamais celui-là. Hein. Et quelqu'un avec qui j'ai été très lié, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Georges Hulmer.
Ah oui, Georges Hulmer, dont on ne parle plus beaucoup, malheureusement, aujourd'hui.
Il a chanté mes chansons.
Oui.
Je l'oublierai jamais. Ça a été vraiment une liaison, un amour, une tendresse. Ça compte, vous savez.
«
Mick Michel, alors finalement, donc en 73-74, vous êtes dit, bon, ça va comme ça, le monde du show business, j'ai envie de rentrer au bord de la Saône et de me remettre à mon travail d'artiste, plasticienne.
Ça s'est pas passé comme ça exactement. Donc j'étais productrice à la télévision.
Oui.
C'était en 74, mais en 69-70... J'étais peintre, hein, toujours, je continue à peindre. Mais j'ai eu une révélation à Rustrel, dans le Vaucluse, avec un carrossier ami. Et je suis allée avec une ponceuse électrique, il était en train de nettoyer des ferrailles rouillées, et j'ai vu la lumière du soleil. J'ai vu la vie de l'acier si on le blesse. Eureka, j'ai trouvé, je vais dessiner avec la lumière. Il a arrêté son machin, il dit, t'es pas un peu folle, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, presse-moi ta ponceuse, je vais dessiner avec. Elle est fada de ma copine, elle est fada, il est parti. Et ben, je suis allé à Apt, je me suis acheté une ponceuse électrique, un morceau de zinc, n'importe quoi, je connaissais pas les métaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert ma technique que j'ai maintenant de blesser l'acier avec une ponceuse électrique. C'était en 69-70. Et à partir de ce moment-là, en plus de mes tours de chant, j'ai inventé ma technique, j'ai même déposé un brevet.
Ah oui.
Et en 74, bah vraiment, j'avais déjà vraiment une belle collection.
C'est ça.
Et le hasard a voulu que on me propose Petrides à Paris, Place Beauvau.
Une galerie, voilà.
Me propose, me dit, on a vu ce que vous faisiez. Et on vous expose. Mais je dis, ben pas maintenant. C'est dans un mois ou pas du tout.
Ah.
Et j'ai tout laissé tomber.
Voilà.
Pour faire ma première exposition chez Petrides en 74.
Et finalement, vous avez, à partir de là, à peu près, jamais renoué avec le milieu du showbiz.
Je ne les ai pas perdus complètement.
Non, bien sûr.
J'ai coupé court.
Oui.
Je n'ai plus été productrice. J'ai fait le showbiz, le dernier show.
Voilà.
Et je me suis lancé uniquement dans l'acier, voilà.
Avec un métal spécial, hein.
Ah, bien sûr. Alors j'ai étudié
molybdène.
Voilà, parce que alors j'ai même été dans des sociétés spéciales pour apprendre ce que c'était que le métal, quel était le métal qui ne rouille pas, etc. Voilà, bref, bon, NS22S, je ne veux pas vous embêter avec tout ça, mais j'ai découvert l'acier qu'il me fallait.
Et d'ailleurs, moi, j'avais eu le plaisir, avant même de vous connaître, de voir à Paris une exposition à la mairie du 16e arrondissement. Il y a des expositions régulièrement de vos œuvres, avec des thèmes qui reviennent assez souvent. D'ailleurs, par exemple, les chevaux.
J'ai beaucoup de chevaux.
En partie, ça vient de votre grand-père, ça, non?
C'est voilà, c'est lui qui m'a emmené dans tous les haras et qui m'a emmené sur les chevaux et tout ça, qui m'a donné l'amour du cheval.
C'est ça.
Mais enfin, j'aime faire de l'abstrait, des idées, des personnages.
Des sportifs aussi, souvent.
Le mouvement, toute la vie. Et je vous signale, parce que j'ai annulé toutes les expositions actuelles, et pour cause, puisque je n'y vois pas, j'ai des gros problèmes de vue, mais la seule chose que j'ai gardée, c'est Paris à la mairie du 11e, fin octobre prochain.
Ah bah voilà,
vous êtes les premiers à le savoir.
Un bon rendez-vous. Ah bah très très bien.
Vous êtes les seuls, le 23 octobre.
On sera nombreux. Et c'est une nouvelle série, une série d'œuvres récentes ou une rétrospective?
Ah bah il y a une rétrospective, puisque je ne travaille plus.
Oui.
Je vais peut-être pouvoir retravailler un peu.
Quelques œuvres.
Enfin, je pense même faire une rétro, mettre des peintures. Ça serait amusant de montrer des peintures, ce que je faisais avant
la série. De toute votre vie.
Voilà.
Voilà. Il faut dire, oui, d'ailleurs, qu'on peut voir aussi certaines de vos œuvres dans des parkings des Champs-Élysées.
Oui, oui, bien sûr, il y en a un peu partout dans le monde entier.
On a pu en voir
des monuments, des machins.
Aux Jeux Olympiques d'Albertville, vous avez fait toute une série de sportifs, etc. Non, donc c'est une vie qui est très active aussi. Hein.
Ah,
c'est
pas oui, du vraiment, tout, c'est sûr que j'ai eu de la veine.
Ben merci en tout cas, Mick Michel, de nous avoir reçus pour évoquer ces souvenirs tellement riches. Je ne peux pas vous poser une question idiote, mais enfin oui, je la pose quand même. Entre ces différentes vies qui ont été la vôtre, il y a une hiérarchie pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la chanson, c'est la sculpture, c'est la peinture, tout ça se complète?
Je mélange les deux, c'est drôle, je serais incapable de choisir, j'ai tellement aimé les deux. C'est la chance que j'ai eue d'avoir deux vies différentes, aussi belles l'une que l'autre.
C'est vrai, c'est vrai.
Il faut au moins reconnaître son bonheur.
Et puis vous vous êtes rapproché alors au fond de votre ville natale. Je crois que même que alors il y a une plaque qui a été posée
201 rue Vendôme
à Lyon.
À Lyon.
Donc vous avez aussi toujours malgré tout ce lien très fort avec cette région où vous vivez
Lyon,
et qui a été la vôtre. Hein. Vous êtes
Lyon,
une fille de Lyon.
Absolument.
Et vous le revendiquez.
Très attaché à ma ville, très.
Voilà. Mais vous n'avez plus, disons, ce sentiment que Paris regarde Lyon de haut, etc.
Non, tout pas ça, du tout. Tout. Passé, donc, ça a bien changé. N'y revenons pas.
C'est l'harmonie retrouvée.
Voilà, exactement.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Mick Michel, pour cette évocation en chanson. Et on sera tous à la mairie du 11e dans quelques mois pour vous retrouver. Et merci de nous avoir reçus. Au revoir.
Ouais, vous savez, je vous remercie vraiment d'être venu jusque-là. Au revoir.
Les souvenirs ont fait leur nid dans chaque quartier, comme les moineaux des Tuileries, ils ont niché. Y'a pas moyen de faire un tour sans se dire tiens, ça me rappelle un jour d'amour comme le temps passe. Les souvenirs ont fait leur nid dans tous les coins de la maison qu'on habitait, tu t'en souviens. Mais les souvenirs, c'est plus fidèle que les serments, car les amants oublient l'amour, l'amour qui passe. Et si un jour tu t'en allais pour vivre ailleurs, je quitterai Paris jonché de petits morceaux de cœur pour éviter de les retrouver à chaque pas. Je m'en irai pour retrouver le temps qui passe. Les souvenirs, sa vie, sa mère, comme les moineaux. Et quand après bien des années, ils volent moins haut, on les rencontre, on les salue, en se disant tiens, ça me rappelle, mais c'est si loin, et puis l'on passe.
Les souvenirs, c'était donc Mick Michel en 1957, Mick Michel que j'avais eu la joie de recevoir il y a 10 ans, le 2 juin 2009, dans Étonnez-moi Benoît. Mick Michel qu'on a été tous très tristes de voir nous quitter le 16 mai dernier. Et puisqu'il nous reste quelques minutes avant de nous quitter, je vous propose de retrouver le compositeur Jean Français avec son concerto pour piano et orchestre de 1936. On écoute le dernier mouvement Allegro, interprété par la fille du compositeur Claude Paillard Français au piano, l'orchestre de Radio Luxembourg sous la direction de Jean Français.
Thank you.
le final du concerto pour piano et orchestre de Jean Français par Claude Paillard Français au piano avec l'orchestre de Radio Luxembourg sous la direction du compositeur Jean Français. On a rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle rediffusion d'Étonnez-moi Benoît. Rendez-vous cette fois-ci avec Pierre Tchernia.